Riviera Ferraille.
Les ninjas. Au révélé du mystère, ces personnages énigmatiques sont encore décriés de nos jours. Dans le Japon féodal, tandis que les seigneurs des différentes provinces s'affrontent pour étendre leur hégémonie sur le pays, ces guerriers de l'ombre vont changer de façon radicale les règles du jeu. Ils sont passés maîtres dans l'art de l'espionnage, de la conspiration et de la guerre secrète.
Ouais, guerre secrète. Non. Un ninja, ça fait pas de la guerre secrète. Un ninja, c'est chez Interpol. Un ninja, ça fait du roller.
C'est n'importe quoi. Moi, je suis complètement d'accord. Déjà, des ninjas au Japon, mais c'est nawak. Les ninjas, ils sont tous à Hong Kong, dans le parc où il y a les tables de pique-nique.
Alors, je suis pas d'accord. Il y a aussi des ninjas en Amérique. Et puis, c'est quoi ces couleurs? C'est noir. Mais c'est d'une tristesse. Où est le fluo? Où est le camouflage?
Où est le bariolé? Où est le bandeau? Non. Bon, allez, on va
Je trouve que ça sentait la fake news, hein, quand même, ce truc. Documentaire sur les ninjas.
J'ai pas vu le moustache, là. Il y a quelque chose qui
bon, vous l'avez compris, on va vous parler des ninjas dans le podcast Nanarland. Et c'est maintenant.
Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la cave.
Riviera Ferraille présente Nanarland, le podcast des mauvais films sympathiques. The podcast about likable bad movies. Подкаст о второсортном кино, которое мы все так любим смотреть.
De quoi est-ce que tu parles? Qu'est-ce qui s'est passé? Ninja. Ninja. Quoi? Ninja? Le tueur est un ninja.
Alors tu es convaincu?
Je n'y comprends plus rien. J'ai peur de faire le moindre mouvement.
Ça n'a rien à voir. C'est ton esprit qui réagit.
Depuis les studios Nanarland, Paris et Grenoble. From Nanarland Studios in Paris and Grenoble. Сделано в студии Nanarland в Париже et Grenoble.
Dans tes veines coule le sang d'un dieu venu d'un autre monde. Tu es l'homme Puma.
Bonjour, bienvenue dans le podcast Nanarland, le podcast des mauvais films sympathiques, où on fait l'apologie du ratage, où on explore tout ce qui ne s'est pas passé comme il faut au cinéma pour vous en parler, pour vous donner envie de voir ces films tellement ratés qu'ils en deviennent hilarants, et pour vous raconter les histoires qui ont donné lieu à la conception de ces films et de ces heureux accidents. Aujourd'hui, on va vous parler d'un de nos thèmes préférés depuis le début de l'histoire de Nanarland, à savoir les ninjas, les guerriers de la nuit, les shinobi. Et moins ils sont efficaces et plus ils sont bariolés et plus on les aime. Je ne suis pas tout seul pour mener à bien cette mission. J'ai les trois ninjas, on les appelle. À ma gauche, Julien.
Oui, bonsoir, je suis le ninja bleu.
De l'autre côté du micro, de l'autre côté des Alpes, j'ai Régis.
Bonsoir, alors moi ce soir, c'est Ninja Vert.
Ninja Vert. Et avec lui, Rico.
Salut les nanardeurs, moi je serai le ninja noir avec des rayures grises.
Et c'est très chatoyant. Vous êtes prêts à raconter l'encyclopédie des ninjas
On a mis nos plus beaux bandeaux.
Prêt à dire plein de conneries. Ouais.
Les ninjas, ça fait, c'est quand même une figure incontournable de la pop culture depuis maintenant, bien, j'ai envie de dire, une bonne cinquantaine d'années. Tiens, je sais pas quand est-ce qu'on commençait à apparaître les ninjas dans la pop culture. J'imagine que c'était au Japon, sûrement dans les mangas, au cinéma dans les années 50-60.
Je pense que c'était dans des séries japonaises, ouais. Ouais. Dans les années 50.
Séries japonaises. Ouais. Commence un petit peu aussi à en voir apparaître dans les années 70, dans les films de Hong Kong, un petit peu, généralement en méchant, parce que les Japonais sont souvent les méchants dans les films de Hong Kong.
Mais même le ninja est à la base plutôt une figure méchante en fait.
Oui.
C'est plus tard que c'est devenu des espèces de
justicier de la nuit.
Justicier, mais à la base c'est quand même une figure de vilain historiquement. Sachant que dans la culture japonaise, ils existent depuis très longtemps. Là, on parle de pop culture, culture audiovisuelle, on va dire, enfin télévisuel, manga, cinéma. Quoi.
Ouais, ne vous laissez pas berner par les extraits que vous avez pu entendre en introduction. Tout ça,
c'est des conneries.
C'est n'importe quoi. Les ninjas, empire féodal, tout ça. Non.
Ouais, t'as raison de le préciser, c'est quand on parle de pop culture, c'est pop culture moderne, mais c'était déjà des figures de la pop culture japonaise avant la télé, avant le manga, avant le ciné, avant toutes ces choses-là. Quoi.
Plus sérieusement, pour en revenir à la figure du ninja dans le cinéma traditionnel, simplement en fait, dans les films japonais, le ninja c'était simplement l'assassin, parce que la figure du ninja traditionnellement au Japon c'est plutôt quand même une figure d'un guerrier sans honneur. C'est un assassin, ce n'est pas le samouraï, celui qui combat pour une véritable cause, voire même le ronin qui a perdu son honneur parce qu'il a perdu son maître. C'est une ombre de la nuit, c'est un tueur, et en règle générale, il n'avait pas le premier rôle.
Sachant que tous les ninjas dont on va parler ce soir ont globalement perdu leur honneur, mais pour d'autres raisons. Il y a quand même beaucoup de gens qui ont mis le doigt dedans, qui ont laissé leur honneur. Quoi.
Ma culture nippone est limitée, mais je crois que le ninja était en particulier depuis assez longtemps une figure du théâtre japonais traditionnel, où comme vous dites, il jouait un peu le méchant qui attaque par derrière, par opposition au samouraï qui lui est le noble guerrier qui se bat à la loyale.
Ouais. Les premiers ninjas étaient des ronin, je crois, qui se sont réfugiés dans la montagne et qui n'avaient plus de maître, plus de boulot, et qui ont choisi le déshonneur. Et je crois que ça a donné lieu aussi aux premiers gangs de Yakuza, les gangs de ninjas au XVIe siècle.
C'est marrant, c'est qu'il y a un vrai parallèle avec les acteurs qui ont fini dans les films de ninja, je trouve. Ouais. Ils n'avaient plus de boulot, ils sont
partis dans la campagne, on les revoyait plus, et puis ils sont venus déguisés bizarrement.
Bon, et c'est vrai que là, depuis quelques années, le ninja le plus connu du monde, c'est Naruto. Et
il est orange, ce qui est donc le signe d'un vrai ninja.
Il est coloré, mais les ninjas dont on... un ninja DDE. Et les ninjas dont on va vous parler ce soir n'ont aucun rapport avec Naruto. C'était Naruto Origins. C'est vraiment... voilà. Donc ouais, effectivement, comme vous disiez, ils ont commencé à apparaître dans le cinéma hongkongais. Il y avait quelques films de la Show Brothers, on les voyait. Après, on a commencé à les voir plutôt dans le cinéma américain. Ils sont revenus à Hong Kong dans un cinéma de bas étage dont nous allons reparler dans quelques instants.
Je voudrais souligner un énorme avantage du ninja en fait, en termes cinématographiques et surtout pour les films fauchés, c'est qu'en fait, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'acteurs pour faire des armées de ninja. Il suffit d'en avoir 3 ou 4, de changer juste leur cagoule, voire même de les renvoyer avec les mêmes cagoules. Et puis, vous avez des ninjas interchangeables au kilomètre. Donc, c'est un méchant économique. Cet aspect économique, cet aspect un petit peu low price du ninja, est aussi un facteur qui explique sa popularité, surtout qu'il n'y a finalement pas besoin de beaucoup d'équipement. Une combinaison noire...
La cagoule est vraiment peut-être l'objet le plus emblématique du ninja moderne, puisque c'est aussi ce qui lui a permis d'émerger dans le cinéma occidental. Pourquoi est-ce que les Américains ont commencé à faire des films de ninja ? C'est parce que ça leur permettait de faire des films d'arts martiaux avec des héros qui étaient des acteurs américains. Et dès qu'il y avait des scènes d'arts martiaux, des scènes de cascade, hop, on mettait la cagoule et on pouvait mettre des cascadeurs asiatiques ou des acteurs japonais à l'intérieur. C'est exactement ce qui va se passer dans peut-être certains des films d'ailleurs dont on va parler ce soir.
On ne voit pas et de quoi tu parles.
Pour faire un petit parallèle avec notre dernière émission donc sur Chuck Norris, c'est aussi ce qui explique pourquoi Chuck Norris n'a jamais fait de film de ninja. Et c'est vrai, c'est ça, je le tiens de Sam Furstenberg qui a réalisé lui des films de ninja pour la Canon, parce que Chuck Norris ne porte pas de cagoule. C'est-à-dire que Chuck Norris n'acceptait pas de rôle où pendant un tiers, voire les deux tiers du film, on ne voyait pas son visage, donc il a refusé de jouer dans des films de ninja.
À part quand il se morfait en ours, quoi.
Ouais, Chuck Norris n'aurait jamais pu être Judge Dredd, finalement.
Par contre, il a joué dans un film où il y avait des méchants ninjas.
Ah ouais, il en a rousté sans doute, mais lui n'aurait pas fait un ninja.
Et puis dans ses dessins animés, les méchants principaux, c'était des ninjas à la chaîne. Hein. Ouais.
Allez, on va rentrer dans le dur, là, dans le vif du sujet. Chacun des 3 guerriers de la nuit qui est ici vous a préparé une petite chronique de film. Ils vont vous le raconter, vous pitcher ce film pour vous donner une envie maximum de le voir. Et voilà, est-ce que l'un de vous a envie de commencer ?
Oui, je vais commencer parce que j'ai commencé chronologiquement par premiers ninjas qui ne seront pas des ninjas hongkongais, mais des ninjas américains, ce qui est tout de suite quand même plus classe.
Ouais, c'est un peu fade quand même, mais bon, bref, pardon.
Oh, tout de suite.
On va monter en gamme au fil de l'émission.
Oui, je préfère commencer par la base, hein, du ninja américain, et en plus mon ninja américain, il est asiatique. Donc j'avais pas mal de choix dans le ninja canon. Et j'ai finalement, après pas mal d'hésitations, choisi de prendre Ninja 3 The Domination. Ninja 3 La Domination ou Invasion Ninja 3 selon les retitrages vidéo complètement fabuleux qu'il peut y avoir. Alors c'est un film de 1984 et je pense que ce film va être vraiment la matrice de tous les films dont on va parler ensuite, hein, et je pense qu'on va rôder du côté des parcs de Hong Kong avec leur table de pique-nique qui servent à des combats de titans. Ici donc, alors le ninja en question, en fait c'est encore le méchant. C'est un méchant qui va faire ce qu'un ninja est censé faire, c'est des assassinats. Sauf que ce ninja, c'est un vrai psychopathe, et lui, quand il assassine, c'est par paquet de 12. et on commence, en fait, les 10-15 premières minutes par une scène d'élimination, visiblement, d'un mafieux sur un terrain de golf. Le ninja exécute le mafieux, sa petite amie, tous ses gardes du corps. La police arrive, il commence à démastiquer les flics. Et il y a un caractère assez intéressant, c'est que c'est un ninja encore avec tout le côté mystique, tout le côté magique du ninja. C'est-à-dire qu'il a des pouvoirs semi-divins, c'est-à-dire qu'il peut se prendre plusieurs balles dans le buffet, il va lancer sa bombinette à fumée et pouf, disparaître, et hop, il est sous terre. Il va grimper sur un palmier, choper un hélicoptère en plein vol. C'est vraiment le ninja guerrier surhumain. Sauf qu'il se fait quand même dégommer par la police, hein, assez rapidement, parce qu'il faut...
c'est les États-Unis.
C'est marrant que tu parles d'un ninja sur le golf, parce que vers la même époque, il y a un jeu qui est sorti sur NES qui s'appelle justement Ninja Golf, qui est quand même un concept extraordinaire, c'est-à-dire que t'es un ninja qui joue au golf, et tu t'arrêtes pas de te faire emmerder par des loubeurs, et donc tu dois les... tu dois les déboîter entre deux trous avant d'aller
pour te faire ton...
C'est juste la meilleure idée de crossover du monde, je trouve. Le ninja et le golf, en fait, c'est parfait.
Ouais,
tout à fait. Mais dans le film proprement dit, notre ninja se fait dégommer par la police et a juste le temps, en fait, de confier son katana à la première personne qu'il croise. Et cette première personne, c'est une charmante jeune femme qui est réparatrice de lignes téléphoniques, mais aussi championne d'aérobic. C'est une femme des années 80. Et en prenant ce katana, en fait, l'âme du ninja va posséder cette pauvre femme, qui va commencer à sentir le sol se dérober sous ses pas, et surtout à continuer le travail du ninja qui consiste à exécuter toute une série de flics, toute une série de mafieux. Elle est possédée et comme nous allons l'entendre dans un petit extrait, même les meilleurs exorcistes japonais sont incapables de vaincre cette malédiction du ninja.
Bien fou! Rien ne m'arrête! Je suis un ninja! Rien ni personne ne m'arrêtera!
Ta mère suce des katanas en enfer!
Ouais, alors c'est un petit peu l'ambiance, d'autant que entre deux démastiquages de méchants, elle fricote un peu avec un beau flic de service. Domestique à peu près tout le monde, en fait. C'est pas très très clair, en fait. Visiblement, elle le tue. Elle veut se venger des flics qui l'ont tué quand elle était ninja. Mais on n'a pas vraiment d'explication très très claire sur pourquoi elle mène ce contrat et qu'elle
exécute. C'est bien la première fois que j'entends parler d'un film de ninja où le scénario serait pas clair.
Oui, alors, c'est Sam Firstenberg. C'est Sam Firstenberg qui est aux commandes et on sent un peu de backlash dans le film. Hein. Ça se voit, il y a énormément de faux raccords, il y a énormément de scènes dont on sent qu'elles ont été tournées en une prise et que de toute façon il n'y avait pas le temps pour faire plus. Et Firstenberg est quand même un cador de la série B, hein, il sait comment faire avec un petit budget. Là, on sent quand même que derrière, il y a la canon qui est là, qui est hop, 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 là, faut finir, là, faut terminer. On livre le film dans les vidéoclubs à la fin de la semaine. Là,
Vraiment, c'est vraiment le fondateur à tous les niveaux. Donc.
Furstenberg, on l'avait rencontré pour le tournage de Nanaroscope, il nous avait parlé donc notamment de ce film. En nous expliquant que c'était pas possible, pareil, ce qui est possible, pas possible avec les ninjas, faire une ninja femme à cette époque-là et avec les gens avec qui s'entouraient, notamment les maîtres d'arts martiaux, fallait que scénaristiquement ça soit le transfert de l'esprit d'un ninja dans le corps d'une femme. Ça pouvait pas être une femme ninja comme ça de but en blanc. Quoi.
Même si c'est quand même une femme qui, même avant d'être possédée, est capable de...
Ah bah tu peux être championne d'aérobic.
Oui, championne d'aérobic.
Et réparatrice de téléphone.
Réparatrice de téléphone. Et puis aussi, quand il y a des loubards qui viennent l'embêter, voilà, qu'elle leur règle leur compte sans trop de difficultés. Quoi. C'est quand même la femme moderne. Une femme moderne avec un... Alors, avec une borne vidéo, c'est vraiment années 80, parce que c'est aussi la décoration des années 80, c'est les choucroutes des années 80, c'est le fait, par exemple, que quand tu es chez toi, dans ton loft, tu as bien entendu une borne d'arcade dans ton jeu vidéo, et d'ailleurs, le ninja va passer par la borne d'arcade pour faire une scène de possession et pour s'emparer de l'âme de la jeune femme.
Encore une fois, les jeux vidéo sont à l'origine de la violence.
Non, moi je pense plutôt que c'est l'aérobic et la musique disco. Parce que j'aimerais quand même qu'on s'attarde une minute sur cette ambiance années 80 et qu'on s'attarde une minute sur cette musique, sur ces scènes d'aérobic qui sont tellement datées. Je vous ai mis un petit peu de musique pour que vous soyez dans l'ambiance. La scène d'aérobic qui permet toujours de filmer des jeunes femmes qui sont en train de se baisser, de montrer dans leurs fesses, dans le lycra moulant. Et c'est toujours les années 80 comme on les aime. Take a look at your body, what you feel happy. Is it junk food and TV all night? When you look in the mirror, do you wish it was broken? Cause you can't stand and look the sight.
Oh là là, qu'est-ce que c'est ringard. Heureusement qu'aujourd'hui on a des trucs mieux comme la Zumba.
De toute façon, moi j'ai décroché après les tectoniques, point de vue musique et danse. Donc,
On sait que alors, t'es le doyen d'entre nous.
Dernière petite chose quand même sur ce film complètement fou, c'est qu'il y a aussi, on va dire, un ninja, un gentil ninja, même si on le verra pas trop en costume de ninja, il est incarné par Shoko Sugi, qui était un petit peu la vedette d'arts martiaux de la canon à cette époque-là, jusqu'à ce qu'il trouve finalement quand même un blanc pour faire le travail en la personne de Michael Dudikoff, qui deviendra le célèbre American Ninja, dont on reparlera sûrement un jour, parce que cette série à elle toute seule mérite quand même qu'on s'y attarde. Et Shoko Sugi, qui est un vrai artiste martial, qui manque pas de charisme, qui est quand même bon, eh bien, il incarne là un gentil ninja qui a été rendu borgne par le méchant ninja du début, qui va essayer de faire l'exorcisme. Et comme c'est un japonais, ben forcément, ses lignes de dialogue sont relativement réduites, comme on va le voir dans cet extrait.
C'est toi le ninja? Tu peux m'aider?
Oui.
C'est vrai que seul un ninja peut détruire un ninja.
C'est vrai.
Alors aide-moi, je veux me débarrasser de lui.
Tu sais ce que je dois faire.
J'ai confiance en toi. Je ne veux plus faire le mal.
L'épreuve est dangereuse pour toi.
Est-ce que je vais mourir?
Non, pas si l'esprit te quitte et retourne en son propre corps.
Alors, juste pour terminer vraiment sur ce film, je crois que c'est vraiment le film qu'a dû voir Godfrey Ho, qu'a dû voir tous les Hongkongais dont on va parler, parce qu'il y a tout, c'est-à-dire que les ninjas sont des espèces de magiciens qui sont capables de tout faire. On a quand même notre méchant ninja qui va réussir à se réincarner, à reprendre forme humaine, mais réussir à s'enfoncer dans le sol comme une toupie pour provoquer des tremblements de terre. Enfin, on est dans... Il fait voler son épée pour attaquer ses adversaires, enfin, il attaque via des jeux vidéo. Enfin, on est dans la folie furieuse, et encore... tempéré par le fait que c'est américain, donc il y a quand même un petit peu ce côté professionnel de la canon, et la canon va continuer encore à exploiter beaucoup le filon du ninja. Il y a pas mal de films avec Shoko Sugi qui est un peu leur star maison, et après il y aura vraiment la série des American Ninja, Mais pendant ce temps-là, à Hong Kong, on a vu ça, on en a tiré profit, et je pense que certains se sont dit qu'ils allaient pouvoir faire mieux.
Juste en deux mots, Rico, parce que c'est vrai que ça fait plusieurs fois qu'on l'évoque, en deux mots, la Canon, tu peux la placer. Alors, oui. Parce que c'est vrai qu'on l'a pas rappelé, parce qu'on
en a parlé la dernière fois. Je pense qu'on fera probablement 25 à 30 émissions spéciales sur la Canon.
On parlera environ dans chaque émission.
Voilà, c'est tellement c'est riche. C'est une compagnie américaine qui a été fondée par deux Israéliens, Menahem Golan et Yoram Globus, deux cousins qui sont vraiment décidés à conquérir Hollywood et qui vont former dans les années 80 une espèce de boîte absolument dingue qui va avoir en fait deux grandes branches. L'une qui va racheter les droits de grandes séries de films un peu en déshérence, genre Superman, pour sortir des suites à bas prix, mais avec les acteurs d'origine. Et puis, ce qui va faire leur fortune, c'est les films de vidéoclub. Les films d'abord qui sortent au cinéma, mais surtout en vidéoclub, ça sera leur grande chance. Ils vont lancer Van Damme, ils vont se servir de Chuck Norris, et ils vont exploiter à fond le filon du ninja pour faire des films toujours plus fous, qui permettent de payer les suivants jusqu'au moment où le système ne fonctionne plus et il s'effondre à force de vouloir se prendre pour une méga corporation, là où ils sont finalement des fourgueurs de cassettes vidéo.
Ouais. C'est parfait.
Ça résume bien.
On en reparlera sans doute un jour, mais la fin arriva lorsqu'ils décidèrent de faire deux films sur la Lambada. Une histoire qu'il faut absolument qu'on vous raconte dans un numéro prochain.
Et petit point, Shokozugi, parce que Ninja 3, c'est la suite de Ninja 2 et de Ninja 1. Ninja 1 étant l'implacable ninja, aka Hunter the Ninja avec Franco Nero. Si je me trompe pas, et désolé pour les spoilers, Shokozugi était le méchant dans le premier ninja et il se faisait tuer à la fin, non ?
Oui, mais en fait, c'est pas des suites, c'est juste qu'ils exploitent le personnage. Shokozugi, qui au départ joue le méchant, c'est un bon artiste martial, il a quand même du charisme, et il va faire plusieurs films de ninja, tous seront pas numérotés, ouais. Jusqu'au moment où il en a un peu marre et puis il veut faire un peu autre chose. Et au moment aussi où on essaie de trouver un héros qui soit encore plus américain, donc on va prendre Dudikoff, dont le nom américain montre bien c'est le ninja.
Précisons que dans le premier,
ça va être le vrai ninja blanc.
Précisons que dans le premier, Shokosugi jouait le méchant, mais aussi à chaque fois que Franco Nero le gentil a enfilé sa cagoule, c'était à nouveau Shokosugi qui était sous le pyjama ninja.
Ah ouais.
Parce qu'il y a le gros avantage aussi du film de ninja. Enfin, on a parlé tout à l'heure de pouvoir faire de la figuration, des choses comme ça. C'est aussi de pouvoir prendre n'importe quel acteur. Et puis quand il se transforme, on le double hyper facilement parce qu'on voit plus que les yeux. Et c'est vrai que la VHS, je pense qu'elle cachait vraiment la misère là-dessus. On a redécouvert des trucs en 35 mm en Blu-ray où là on se dit ah oui, mais ça faisait pas du tout illusion parce qu'on voit clairement que c'est pas le même regard. Mais c'est vrai que le Ninja était pratique aussi pour ça.
Et il y a même quelques exemples particulièrement pégreleux où ils ont oublié la cagoule et on voit juste qu'un plan sur deux c'est un Européen et puis ensuite c'est un cascadeur chinois. Donc d'un côté t'as un gros moustachu et puis hop, changement de plan et soudain c'est un petit chinois tout sec et on essaye même pas de le cacher quoi.
Mais je crois que l'implacable ninja, le jeu de Franco Nero peut se résumer en une expression, c'est lassitude palpable.
Mais qu'est-ce que je fais là ? Mais qu'est-ce que je fais là ?
Honnêtement, il sera pas le seul à jouer un ninja comme ça dans le...
Ouais, je pense qu'on va y revenir. Bon, on a c'était bien cool, on a bien parlé du film. Il y a juste un truc que j'ai envie d'ajouter, c'est un film quand même qui est hyper généreux, très 80s quoi. T'as des bagnoles qui sautent dans tête, t'as des bagnoles qui explosent, des motos qui tombent dans des rivières, enfin ça, c'est un film ultra généreux quoi.
Ah, c'est la Canon, hein, on en rajoute beaucoup parce qu'il faut en mettre plein la vue et ça fera une belle affiche et ça fera des belles bandes annonces qui vont bien claquer quand ça va tourner sur les télévisions dans votre vidéoclub.
Et un autre truc que je voulais vous lire, c'est le résumé du film sur Wikipédia, parce que c'est... ça me fait bien marrer.
Il fait 3 pages.
Alors, ça va aller très vite. Une femme employée des télécommunications de Phoenix et passionnée d'aérobic vient en aide à un assassin ninja plutôt efficace. Malheureusement, il meurt devant ses yeux en lui léguant son katana. Cette dernière arme se révèle possédée par un esprit séculaire, conférant des pouvoirs d'assassin ninja et une passion pour les hommes fortement poilus.
Ils ont laissé passer ça sur Wikipédia.
Ce n'est pas faux.
C'est tout.
Bon, qui se dénonce, qui a fait la notice Wikipédia dans l'équipe?
À mon avis, on va chercher chez les poilus, parce que c'est pas un hasard ce truc.
Voilà, bon allez, qui enchaîne?
Eh ben c'est dur, parce que du coup, vu qu'on connaît pas nos films respectifs, ouais. Peut-être Julien, vas-y,
Julien, vas-y.
Donc voilà, bon, donc moi ce soir je vais vous parler d'un film de Hong Kong, donc on s'éloigne des États-Unis, qui s'appelle Black Ninja. Donc déjà le concept d'un ninja noir, vous vous dites, oui, enfin ils sont pas tous comme ça. Alors non, parce que celui-là il est noir de peau, il est pas juste noir de pyjama. Et avant qu'on entre vraiment dans le vif du sujet, il faut qu'on évoque un peu les films de ninja de Hong Kong et leur grande particularité, à savoir que ce sont ce qu'on appelle dans notre jargon à nous des deux en un. Un 2 en 1, c'est quand vous prenez un premier film qui, dans le cas présent, va être un espèce de polar d'action taïwanais ou hongkongais ou autre, enfin de la région, donc un film avec déjà des scènes d'action et des scènes d'arts martiaux déjà tournées avec des acteurs locaux, et que pour le vendre à l'étranger, vous retournez des scènes avec des acteurs européens ou américains vaguement connus, et que vous mélangez les deux. En refaisant les doublages pour essayer de donner un semblant de cohérence à l'histoire.
C'est les Power Rangers en fait.
C'est un peu ça, ouais. Donc si ça vous paraît être une manœuvre un peu malhonnête, vous avez raison. C'est même complètement de l'arnaque. Mais ce fut en fait la totalité des films de ninja en général et tous ceux de Hong Kong ont été faits sur ce modèle, c'est-à-dire un film d'arts martiaux asiatiques mélangé avec des scènes retournées à la va-vite et des espèces de doublages à la con refaits pour tenter de faire communiquer les films entre eux, par exemple en faisant en sorte que les personnages se téléphonent d'un film à l'autre pour tenter de relier les scénarios.
En fait, faut dire ce qui est, c'est qu'on a quand même sur Nanarland découvert ce genre d'abord avec stupéfaction, mais c'est un peu ce qui nous a fait...
consternation aussi.
Ouais, et consternation. Mais quand tu disais, Martin, tout à l'heure que c'était un des genres rois du nanar, on pensait surtout à ces films. C'est-à-dire que ces films-là, c'est presque un genre en soi, le 2 en 1 hongkongais avec des films mélangés et des scènes retournées mixées à des vieux polars asiatiques. Quoi.
L'une des particularités aussi, c'est que c'est l'œuvre quand même d'en gros trois personnes. Hein. C'est deux producteurs, donc Thomas Tang et Joseph Lai, qui ont fondé deux boîtes, IFD et Filmark, et leur principal homme de main, qui est un réalisateur complètement dingue, qui s'appelle Godfrey Ho. Et puis, c'est vraiment eux les têtes pensantes de ce petit commerce qui va débiter quand même des films à la chaîne. Hein. On tape dans une pierre, on en trouve encore quatre. Hein. C'est hallucinant.
En tout cas, je suis super d'accord avec le choix de Julien. Je pense que Black Ninja, c'est vraiment un des trucs les plus dingues en fait. Enfin, tu vas nous expliquer pourquoi, j'imagine, mais ouais, pour moi je le classe dans le top 3 de ce qu'ils ont pu faire, quoi.
Donc en fait, cette intro, c'est pour dire que un point commun à tous ces films, c'est qu'effectivement une grosse partie de la nanardise vient du fait qu'il y a quelqu'un, un cinglé, qui a essayé de mélanger deux films et que évidemment ça marche pas, quoi. Ça marche jamais, ça marche pas une seconde.
Oui, c'est vrai que c'est ça qu'il faut préciser en fait.
Le mec s'est pas filmé, donc ça on va en parler. Donc revenons sur Black Ninja, qui est effectivement l'un des exemples les plus emblématiques de cette tendance, de cette filière, dirait-on. Black Ninja, au-delà d'un film, c'est, je pense, un peu un conte de fées. Le héros de ce conte de fées, c'est Alphonse Beny. Alphonse Beny, c'est un acteur et réalisateur camerounais qui, à l'époque, avant Black Ninja, avait tourné dans des films au titre évocateur, comme, alors j'ai noté, L'homme qui voulait violer le monde et Certaines chattes n'aiment pas le mou. Et comme vous vous en doutez, tourner des films de cul, c'était pas le rêve de sa vie, enfin encore que ça pourrait. Son rêve, c'était de devenir un ninja. Et il se trouve que Alphonse Beny étant impliqué notamment aussi comme producteur et distributeur de films au Cameroun, lors d'un festival de Cannes au marché du film, il rencontre Godfrey Ho et Joseph Lai, qui à l'époque venaient fourguer leur cam de films Frankenstein. Et là, un truc hallucinant, c'est-à-dire qu'il leur propose d'en faire un. Il veut en faire un et il veut être dedans. Parce que
c'est la première fois que ça a dû leur arriver, en fait.
Clairement. Parce qu'apparemment, les films de ninja, les films d'arts martiaux étaient
réciproquement.
Ces films d'arts martiaux étaient extrêmement populaires au Cameroun. Les ninjas étaient cool et Alphonse Beny voulait devenir un ninja. En gros, je résume, pour se la péter au pays, quoi. C'était sa motivation.
Genre le mec il arrive, il leur dit ouais, j'adore ce que vous faites.
Ah bon?
Et là, ils disent non mais on vous croit pas, c'est pas possible, personne nous a jamais dit ça monsieur.
Et donc, il top là parce que Alphonse Béni amène du fric, c'est-à-dire qu'il met de l'argent dans un
et en
truc
plus,
comme
il
ça.
Donne de la thune.
Putain, ils ont dû bien rigoler quand même.
Ils ont dû se faire un dîner de cons.
Oui, alors il faut pas oublier non plus qu'il y a Richard Harrison dans l'affaire, hein, parce que c'est lui qui a présenté en plus. Parce qu'on va en reparler de Richard Harrison, mais c'est lui qui a présenté Alphonse Béni à Godfrey Ho et Joseph Lai. Et lui-même s'en mordra les doigts plus tard.
Le salopard. Donc, il top là, et voilà Alphonse Béni embarqué dans l'histoire. Donc, d'abord, il veut être un ninja, mais pas que. Alphonse Béni, son truc, c'est qu'il aime bien aussi Clint Eastwood. Et donc, là, on va vous passer un petit extrait du début du film où Alphonse Béni, policier, va arrêter des dealers.
Policier français, hein.
Policier français, en effet, cocorico.
Je t'avais prévenu. Je sais à quoi tu penses, combien de balles il reste. Suffisamment pour t'envoyer en l'air, mec. Tu veux que je te dise, mec, je te trouve trop jeune pour mourir. Mais si jamais tu ne me laisses pas le choix, voilà.
T'as cet extrait, mais comme il m'a fait halluciner la première fois que je l'ai vu, mais je crois que je m'en rappellerai toute ma vie, quoi.
Parce qu'après, faut aussi dire qu'il arrive en faisant des grandes roues, enfin, ouais, c'est assez spectaculaire.
Il arrive en faisant des flips, et là, c'est l'inspecteur Alphonse Béni ne renonce jamais, quoi.
Surtout qu'en fait, il arrête des trafiquants de drogue à Paris, au bord de la mer, qui dealent de la dope dans des baguettes de pain, quoi.
Bah, on est en France, hein.
Ah, mais...
on est en France. Et là, il est pas encore... dans des bretzels.
Il est pas encore ninja parce qu'il est en jean suite.
Ouais, il est en casual wear là, il est pas encore.
Il est en Friday wear de ninja.
Est-ce qu'on fait un point Frenchploitation maintenant ou c'est plus tard dans ton déroulé?
Frenchploitation, c'est-à-dire que quand il revient au commissariat, tout le monde boit de l'Evian, fume des gitanes et se mouche dans des Kleenex, quoi. C'est...
Oui, parce qu'on veut nous faire croire que le film se passe en France.
Oui, la première partie du film se passe en France, en tout cas
avec, je me souviens, il y a des plans d'ailleurs de extérieurs, mais qui sont en fait des cartes postales de Paris filmées en gros plan.
Ouais, des plans de coupe sur des cartes postales en gros plan. Et il y a un gros drapeau bleu blanc rouge dans le commissariat, je crois. Ouais, des gros plans sur les paquets de gitanes et tout, putain, ça se pissait dessus, quoi.
Et le commissaire, c'est un Canadien français qui s'appelle Pierre Tremblay en plus, donc enfin tout est.
Qui est tout le temps en train de fumer des clopes.
Oui, des gitanes.
Et le petit truc sur la Frenchploitation, tu vas peut-être y revenir, mais c'est que nous, forcément, on en a vu des tripotés de ces films à Hong Kong, et ils étaient tous tournés au même endroit, quoi. Et donc là où c'est censé se passer en France, nous, c'est un lieu qu'on connaît par cœur parce qu'on le voit dans tous les films de ninja à Hong Kong, quoi.
C'est vrai qu'il y avait en gros trois lieux de tournage pour ces films. Donc bon, au bout d'un moment, on a l'impression d'avoir visité la ville. Donc Alphonse Béni arrête des trafiquants de drogue, mais évidemment, ça va pas bien se passer pour le parrain. Et le parrain, est un ninja, est un vilain ninja. Et donc, il envoie des sbires ninja pour tuer la femme d'Alphonse Béni.
Ouais.
Mais Alphonse Béni est aussi un ninja. Donc, il se frite. Alors, malheureusement, il n'arrive pas à sauver sa femme. Il arrive trop tard, mais il arrive quand même à buter les autres ninjas parce que Alphonse Béni est un meilleur ninja. Il est le Black Ninja. Donc, c'est là, en fait, que l'intrigue, qui était jusque-là, donc, en France, à Paris, se déplace à Hong Kong, puisque Alphonse Béni part...
Officiellement, en tout cas.
Voilà, Alphonse Béni prend l'avion et part sur les traces des assassins de sa femme, rejoindre, donc, à Hong Kong, un ami policier, qui est joué par Richard Harrison, un acteur américain qui a pas mal roulé sa bosse en Italie, et qui, à la fin de sa carrière, à un moment où il n'arrivait plus à trouver des rôles, a eu le malheur de dire oui à un mec qui lui proposait de jouer dans des films de ninja à Hong Kong.
Ouais.
Ça, c'est quand même la pierre angulaire du film de ninja, c'est quand même ce mec, quoi. Enfin, c'est Richard Harrison qui se retrouve à jouer dans une tripotée de films. Alors, selon lui, à l'insu de son plein gré, quoi, c'est ça, hein.
En gros, il a tourné en fait une série de scènes un peu dans le désordre. On lui a dit que c'était pour un film. Il a pas trop fait attention, disant de toute façon, ça quitterait jamais Hong Kong. Et il le dit d'ailleurs dans un reportage que vous aviez tourné pour Nanarland. Il y a un de ses distributeurs en Allemagne qui l'appelle en lui disant « Mais comment t'as pu me faire un coup pareil ?» Tu viens de sortir quatre films de ninja, les gens me les retournent en m'engueulant. Et là, il a découvert en fait que ces scènes, elles avaient été mises mais dans 12, dans 15 films. Et 5 minutes de Richard Harrison, et on mettait marqué en gros Richard Harrison sur la jaquette.
C'est-à-dire qu'il avait une petite notoriété et qu'on pouvait éventuellement vendre un peu des films sur son, sur son nom, parce qu'il venait du western, du peplum, etc. Et du coup, c'est vrai qu'il est parti à Hong Kong. Je pense que la clé, en fait, c'est qu'il est parti à Hong Kong en étant persuadé que personne ne verrait jamais ses films. Il n'avait pas compris que ça allait être exporté partout dans le monde. Quoi.
Et là où ça a continué aussi, c'est que quand il a voulu s'arrêter, les autres l'ont fait chanter en menaçant, en le dénonçant au fisc pour le forcer à rester.
Oh, mais je pense qu'il faudra faire une émission spéciale sur Filmark et rien que sur leur méthode, entre leurs dessins animés pourris, entre leurs films de monstres, leurs films de zombies sauteurs. Ils ont inondé le marché avec des méthodes de margoulin.
C'est ce que tu dis, quoi. C'est dès que tu tapes une bière, t'en retrouves quatre, quoi. Les mecs, ils en ont fait tellement. C'est...
Oui, parce qu'ils faisaient pas que des films de ninja. Enfin, les films de ninja, c'était leur.
C'était par mode.
Ouais, c'est par période. Ils ont commencé effectivement par faire des films d'arts martiaux d'épée classiques. Après, ils ont fait les films de ninja. Après, ils ont fait des films de kickboxer. À un moment, ils faisaient des films fantastiques. Ils ont fait un faux Robocop. Ils ont tout fait, ces mecs.
Ils ont même fait un faux Godzilla avec un serpent géant. Enfin,
si c'était à la mode, ils le faisaient. Et puis il faisait toujours la même technique du 2 en 1, c'est-à-dire on prend un film qui existe et on lui rajoute un quart d'heure de scènes qui n'ont rien à voir mais qui sont dans un genre à la mode. Donc je reviens un peu sur Black Ninja. Donc Alphonse Benny est arrivé à Hong Kong, il a rencontré son copain Richard Harrison, et là on commence un peu à voir quel va être le deuxième film. Parce que les méchants en fait nous expliquent qu'ils ont trouvé une nouvelle astuce pour trafiquer de la drogue. Et c'est de l'envoyer par le train de Hong Kong en Europe. Donc les mecs veulent créer le transsibérien de la schnouf. C'est un peu contre-intuitif parce que tu te dis qu'un train, c'est pas l'endroit où t'as peut-être le plus d'endroits où planquer ta drogue, hein, mais c'est leur idée. Ils veulent faire comme ça, ils y vont, ils ont un projet.
C'est vrai que des go fast en train, c'est un peu absurde. Mais
bon. Startup Nation, pourquoi tu crois qu'ils ont créé le TGV ? On soutient. Plus généralement, en fait, on va apprendre beaucoup de choses sur le trafic de drogue dans ce film. Toutes les techniques nous sont montrées, c'est là le côté un peu quasi documentaire.
Cinéma du réel.
On voit les trafiquants planquer la drogue donc dans les baguettes de pain, tu l'as cité, mais aussi dans des ballons de basket et dans des pastèques.
Ah oui, bah oui.
L'ennemi naturel du ninja, la pastèque.
La pastèque, l'ennemi naturel du ninja, à mon avis, il voulait faire fuir les autres.
La kryptonite du ninja.
Mais du coup, moi, ça veut dire que, tu vois, aujourd'hui, je fais gaffe. C'est-à-dire, quand je croise dans la rue des boulangers ou des profs d'EPS ou des maraîchers, je me dis c'est peut-être des trafiquants. Donc, généralement, je vais les dénoncer à la police parce que moi, je suis pas ninja. Donc,
Un dealer sommeille en eux, ouais, c'est sûr.
Et donc, l'autre film qui va être mélangé, en fait, on t'explique que les méchants veulent prendre le contrôle du port d'Aberdeen, qui est le port de Hong Kong, pour pouvoir faire rentrer la drogue par là avant de l'envoyer par le train, donc jusqu'en Europe. Et pour ça, ils ordonnent à leur sbire, qui est dans l'autre film, d'assassiner... Le sbire s'appelle Tiger, d'assassiner un espèce de patron des pêcheurs, de chef du syndicat des pêcheurs d'Aberdeen, qui lui se trouve donc toujours dans l'autre film. Mais le problème, c'est que ce patron des pêcheurs, il a un fils. Que ce fils s'appelle Edmond, et que cet Edmond, il va savater tout le monde. Et parce qu'il est extrêmement triste d'apprendre la mort de son père, comme on va l'entendre dans ce nouvel extrait.
Edmond, réponds-nous!
Et Edmond, pourquoi ces hommes t'en voulaient-ils ?
J'en sais rien. Edmond, écoute ! Edmond, j'ai de mauvaises nouvelles, ton père est mort.
Qu'est-ce que tu me racontes ?
C'est arrivé cette nuit.
C'est sûrement ta gueule.
Hé, j'ai pas fini de...
Dis-moi, Davy, où est-ce qu'il court comme ça ?
Donc voilà, le mec, c'est Columbo, il sait déjà qui a tué son père.
Pour Edmond, quand même.
Surtout qu'on lui annonce pas vraiment en lui demandant de s'asseoir, tu vois, c'est...
Bah non, il venait de se prendre une bagnole.
Donc, en fait, il y a un truc qui est un peu génial dans ce film, c'est que le film d'arts martiaux auquel ils ont mélangé les aventures d'Alphonse Benny et Richard Harrison est plutôt un très bon film d'arts martiaux. C'est-à-dire que les mecs, ils sont vraiment forts, ils font des cascades extraordinaires, et en plus, le truc est passé à moitié en accéléré. Donc, t'as vraiment l'impression d'avoir un truc super frénétique avec des mecs qui font des cascades de guedin, et à côté... T'as deux espèces de... Deux quinquagénaires en pyjama qui moulinent des bras en faisant semblant de savoir se battre, alors qu'en fait, ils connaissent rien en arts martiaux, quoi. Et donc, il y a baston sur baston sur baston. Alvin et Gordon, donc, qui sont Alphonse Benny et Richard Harrison, n'arrêtent pas de mettre des bâtons dans les roues des plans des trafiquants, jusqu'à la confrontation finale, qui va être précédé par un lancer de bail et de défi par téléphone qui nous vaut le troisième extrait de notre chronique.
Ce sont ces ninjas.
Ils nous défient.
Hello, Temple. Vous êtes prêt à me satisfaire?
Pour cela, il faudrait me dire qui vous êtes exactement, monsieur.
La main vengeresse.
Mais on se fout de qui vous êtes! Nous sommes prêts!
Demain matin, vous savez, soyez pas en retard.
Pas de danger.
Ah non, mais c'est...
Alors,
c'est génial, quoi. Déjà, mais il passe pas déjà tout le film à se clasher au téléphone, genre, ouais, vas-y, franchement, on va te défoncer.
Et... Alors, pendant cela, il y a que deux fois, en fait.
Il y a que
ça,
deux fois où
ils
se clashent.
Ça, c'est le deuxième coup de film.
Il me semblait qu'ils arrêtaient pas de se chauffer au téléphone. Et puis, alors, avec
non,
le...
Enfin, il y a d'autres épisodes, mais pas tant que ça, en fait.
Et puis, j'adore le point... Tu sais, le meilleur rancard du monde, quoi. Demain, où tu sais, et sois pas en retard.
Enfin bon, donc tout se finit par une baston totalement nulle, il faut bien le dire, entre d'un côté le gang des ninjas jaunes et de l'autre le gang des ninjas violets fluo.
Putain, ouais, c'est... Alors là, ouais, on avait parlé des guerriers de la nuit, de la discrétion et tout ça, là c'est plutôt...
Là, c'est le catalogue de la redoute des ninjas.
Il faut quand même rappeler que dans ces films-là, on est quand même dans une relecture du mythe du ninja qui est complètement dévarié. Déjà que la lecture américaine était complètement débile, mais là en plus c'est une lecture hongkongaise de la relecture américaine.
Oui, c'est ça. Ouais.
Et donc en fait il y a une espèce de déperdition. Enfin, et du coup les ninjas, on l'a dit en intro, mais c'était peut-être un peu confus pour les gens qui nous écoutent. Il faut quand même rappeler que dans ces films, les ninjas sont pas noirs et faits pour se cacher dans l'ombre. Ils sont jaune fluo, ils sont violets, et en plus on dirait qu'ils se sont habillés à la brocante du coin. Quoi. Enfin, on dirait des clowns.
Et pour être sûr de pas oublier qui ils sont. Et pour être sûr de pas oublier qui ils sont, ils portent des bandeaux marqués ninja dessus.
Ouais.
Parce que au cas où, on sait jamais.
Je l'ai tellement intégré en fait, c'est tellement intégré en nous que j'ai oublié de le préciser. C'est quand même, c'est des trucs qui nous faisaient halluciner quoi. Quand on les découvrait les uns après les autres, il y a 10-15 ans, on hallucinait quoi.
Parfois ils ont aussi des espèces de logos de marques de voitures sur le front.
Ah ouais,
il
y a les logos Mitsubishi, il y a les ninja Mitsubishi. C'est vrai qu'il y a écrit ninja sur leur bandeau quoi.
Bah, faudrait pas qu'on oublie, hein.
Genre...
parce que c'est pas leurs compétences en arts martiaux qui vont nous faire croire. Et là encore, c'est la période riche, hein. C'est la période faste d'IFD où il y a Black Ninja parce qu'Alphonse Beignet a mis un peu de fric. Hein. Il y en a d'autres, les mecs, ils sont habillés par des sacs à patates. Je l'ai vu, je peux témoigner. voilà, donc Black Ninja, c'est un film où les ninjas sont habillés en jaune avec un Camerounais qui a jamais fait d'arts martiaux de sa vie qui se bat contre deux Canadiens et un Américain qui ont jamais fait d'arts martiaux de leur vie non plus.
Ouais. Un incontournable, donc.
Absolument.
Un incontournable du ratage ninja. Bon, bah merci Julien, merci beaucoup. Bon, bah à toi Régis.
Et ben moi je continue sur la lancée, je pense qu'on l'a fait dans le bon ordre parce que du coup moi je suis encore sur sur les ninjas hongkongais parce qu'en fait ce qu'il faut expliquer c'est que des films de ninjas hongkongais il doit y en avoir je sais pas 30.
Non,
300.
À mon avis c'est plutôt 70, hein. Je pense qu'il faut y prendre compte parce que
30 selon la police, 300
parce qu'en fait quand je repense à toutes les scènes de ninjas qu'on a pu voir, on a vu des ninjas qui se battaient avec des vinyles dans cette école hongkongaise du ninja, hein, qui se balançaient des vinyles peints à la bombe argentée pour faire plus comme si c'était des armes. On a vu des ninjas qui se transformaient en branches. Enfin, on a vu.
Qui se battaient avec des cymbales.
Qui se battaient avec des cymbales.
Moi, j'ai vu des ninjas se battre avec des Picasso aussi. C'est des raquettes de badminton. Hein.
Ouais. Faire du roller aussi.
Faire du roller, voilà. Et faut rappeler quand même que c'est tout à base de ninjas qui. C'est des mecs en fait qui se transforment aussi, c'est pas des ninjas, la mythologie du ninja, là c'est, il y a l'effet Méliès comme on dit, c'est-à-dire qu'il, d'un coup cling, on a un petit bruitage, et pff, le mec dans une volute de fumée, il devient ninja bariolé fluo quoi. Et donc moi, dans la continuité, je vais parler de Clash of the Ninja, donc c'est peut-être pour ça que t'as cru te rappeler qu'il y avait des ninjas qui se clashaient, parce que Clash of the Ninja c'est un peu ça.
Oui, c'est vrai.
Et ne manquez pas la suite Buzz of the Ninja et coup de Clash of the Ninja.
Donc il y a quand même un film de Spielberg. Enfin, de Kurt Spielberg. C'est écrit au générique.
C'est son petit frère émigré à Hong Kong.
C'est forcément vrai, c'est écrit.
Oui, parce que voilà, faut aussi préciser que vu qu'on est à Hong Kong et qu'ils pensent à l'export, les mecs, ils se permettaient mais tout et n'importe quoi. On n'a pas parlé des musiques, mais dans ces films-là, ils pillent complètement, c'est-à-dire qu'ils ont aucun respect du droit d'auteur. Donc les bandes originales de ces films-là, c'est Pink Floyd, c'est Tangerine Dream, c'est
Vice. J'ai oublié de le mentionner, mais le générique d'ouverture de Black Ninja, c'est le générique de Deux flics à Miami.
Voilà, ça aussi, ça revient souvent. Donc dans Clash of the Ninjas, c'est un film de Spielberg, mais de Kurt Spielberg. Et pour rester sur les petites coquetteries du générique, donc c'est un film avec Polo Tosha. sauf qu'au générique, il est écrit Polo Torcha. C'est-à-dire qu'ils ont même fait une faute d'orthographe dans le nom de l'acteur principal de leur film, quoi.
Mais il avait un surnom en plus, Paul Tosha.
Oui, parce qu'en fait, Paul Tosha, qui ressemblait vaguement de loin à Sylvester Stallone.
Putain, très, très vaguement et très loin.
Ouais, il a dû par temps de brouillard.
Il a été brandé, en fait, par nos amis hongkongais. Et en fait, il est devenu Bruce Stallion. pour que des fois, sur un malentendu, on puisse penser que Sylvester avait joué dans un film de ninja. Mais là, pour le coup, il joue carte sur table, avec une faute d'orthographe. Et donc, c'est un film starring Polo Tosha.
Qui jouait d'ailleurs dans Black Ninja un tout petit rôle de sbire.
Un tout petit rôle de sbire, qui je crois qu'il n'a aucune réplique, mais effectivement on le voit.
J'ai cru que tu allais parler d'un autre film un peu plus high level dans lequel il a fait une petite apparition aussi, mais je vois que tu t'es rabattu sur Black Ninja.
Mais Bruce Stallion, le nom de famille c'est évidemment Stallone, mais le prénom, dites donc, ça serait pas techniquement de la Bruceploitation ?
Ouais, c'est ce que je suis en train de me dire. Ouais.
Qui serait alors là pour le coup la Bruceploitation la plus absurde du monde parce qu'il a vraiment une tête de Ritalde.
Attention, je te rappelle qu'il y a des films pakistanais de Bruceploitation. Oui.
Ouais.
Et que même Alphonse Benny a fait un film de Bruceploitation où il affronte Bruce Lee.
Enfin, ce film c'est aussi pour moi là, ce qui représente la quintessence du film de ninja, à savoir les mauvais doublages. Parce que quand ils arrivaient en France, ils étaient doublés en français et les doublages sont complètement tarés à l'image des films. Et celui-là, il y a un de mes doublages préférés de tous les temps, c'est l'amical des méchants, en fait l'international des méchants, qui se fait une sorte de réunion Tupperware pour savoir ce qu'il faut faire. Donc chaque méchant est d'une nationalité différente et on sent que les doubleurs galèrent franchement. Quoi.
Notre dernière livraison était bonne, ils en voudraient une autre rapidement. Ils sont prêts à mettre n'importe quel prix du moment qu'on fasse les plus vite possible.
Ok, Peter, une bonne affaire. Téléphone pour leur dire de préparer l'argent. Nous envoyons les organes immédiatement. Ensuite,
Monsieur Roy, nous avons reçu un appel téléphonique d'Américains intéressés par notre business. Ils aimeraient en savoir un peu plus long sur ce que nous pouvons leur offrir. Ils ont ajouté que la question du prix n'était pas un problème.
C'est intéressant. Bien. Tom?
Oui, Monsieur Roy?
Occupe-toi de cette affaire le plus rapidement possible. Mais fais attention. Il ne faut surtout pas attirer l'attention de ces enfoirés d'Interpol qui nous courent après. Tu utiliseras seulement notre code.
Ouais.
Henry?
Oui, Monsieur Roy.
Quand notre client européen doit-il arriver?
Monsieur Foster, la personne qui le représente va certainement venir voir la marchandise personnellement. À mon avis, il doit arriver demain matin.
Quand Monsieur Foster sera arrivé, qu'est-ce que tu lui diras?
Ne vous inquiétez pas, nous avons déjà préparé tous les arrangements.
Bien. Je suis heureux de constater que vous faites beaucoup d'efforts pour que notre affaire continue à marcher correctement. Alors continuez. Un super futur s'offre à nous. Nous allons être très, très, très riches. Bien.
Ah. Et le prochain podcast qu'on fera sur les ninjas, parce qu'on va être obligé de revenir, on prend chacun un accent et on le garde tout le long.
Ok, je vais prendre l'accent anglais.
Très bien, je vais prendre l'accent allemand.
Le film, j'ai dû le voir au moins 6 fois. On l'a vu en nuit excentrique, on l'a vu parce qu'on a fait un coffret prestige ninja avec Nanarland.
Putain, oui.
Voilà, il
faut le dire. Là.
Voilà, on l'a vu, moi je l'ai revu parce qu'on a fait un nanaroscope, on avait fait une escalade à Nanarland. En fait, ce film, on l'adore et c'est vrai que je l'ai vu plein de fois. Sauf que j'ai un problème avec ce film, c'est qu'à la fin du film, je suis incapable de résumer le film que je viens de voir. Sur le moment, j'ai l'impression de comprendre, mais voilà, donc là...
Je pense que le réalisateur non plus ne sait pas vraiment l'histoire du film qu'il raconte.
Donc pour avoir un petit soupçon d'intrigue et puis se refaire une bonne dose de doublage foireux, parce que je pense que c'est vraiment dans le genre un des meilleurs, on a la scène où Polo Tosha, donc Bruce Stallion, ou Polo Torcha, va voir son pote à l'hôpital, et là, ça nous place un petit peu la problématique du film.
Ça va? Tu te sens mieux?
Oh.
Eh, fais gaffe, Jack, couche-toi. Il faut que tu restes calme. Tu seras bientôt remis. T'inquiète pas. Il est trop puissant. Trop cruel. Trop fort. Ouais, raconte-moi. De quoi est-ce que tu parles? qu'est-ce qui s'est passé, Ninja? Ninja? Quoi? Ninja? Le tueur est un ninja? Ouais. Tu dois me croire, Tony. Ah, c'est la vérité, il faut que tu me croies, je ne délire pas. Mais je te crois.
J'admire énormément comment le doubleur de Bruce Stallion, alias Paolo Tosha, nous fait quand même la pire imitation de Stallone que j'ai jamais entendue.
Mais ils doivent être deux doubleurs en tout pour le film, trois peut-être avec les voix féminines, et il faut qu'ils fassent toutes les voix, quoi, donc... C'est un challenge.
Non, je les admire. C'est eux qui essaient de nous arnaquer.
Je les admire.
C'est-à-dire que le prochain podcast, on prend des accents et en plus, on essaye de faire croire qu'on est 8. En prenant chacun une fausse voix. Donc voilà, donc l'intrigue, je vais laisser tomber. C'est, ouais. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un 2-en-1 aussi. Donc ça mélange de films asiatiques et puis de scènes tournées à Hong Kong avec Paolo Tosha notamment. Après, ce qui est assez marrant dans ces films de ninja aussi, c'est que c'est des films qui surfent eux-mêmes sur le mythe du ninja. C'est-à-dire qu'ils n'arrêtent pas, en fait, ils n'arrêtent pas de parler de ninja dedans et de broder des trucs. Donc là, c'est ninja, le méchant est un ninja. Ils sont tout le temps en train de parler de ninja. Et en fait, ce qui est drôle, c'est qu'on apprend quand même des vraies choses sur les ninjas qui vont dans le sens de l'extrait documentaire qu'on a placé en ouverture.
C'est peu crédible, monsieur, c'est peu crédible.
Voilà, donc il y a des espèces d'instants comme ça où d'un coup ça devient presque documenté.
Qu'est-ce que c'est, un ninja?
Les ninjas sont une branche des fameux samouraïs. C'est une vieille organisation. Leur origine remonte à plusieurs centaines d'années. Une grande partie de leur histoire est inconnue. Il n'existe plus beaucoup de ninjas maintenant, mais ils ont tous une technique de combat mortel. Ils sont très dangereux. Ça ne sert à rien d'utiliser une arme. Les ninjas ne meurent jamais.
Alors, les ninjas ne meurent jamais, sauf que dans la suite de ce dialogue-là, on apprend justement comment tuer un ninja.
Pour tuer un des ninjas, il faut que l'homme soit aussi ninja.
C'est tout simple, j'en connais plein. Et alors, où est-ce que je vais en trouver un?
Ne vous inquiétez pas, j'ai un ami qui est ninja et nous n'avons pas à apprendre le jiu-jitsu pour liquider ce monstre. Si j'arrive à en trouver un, il n'y aura pas de problème pour tuer le ninja.
Tenez, allez le chercher!
Oui, ne perdez pas de temps!
Non, ce n'est pas le moment, nous ne savons rien de l'autre ninja.
C'est vrai, nous ne savons rien. Il doit avoir des complices, et où se cache-t-il?
Juste, il faut d'abord retrouver tous ces hommes. Alors, nous les suivrons, et nous saurons où se cache le chef. Ça me paraît sensé.
Excusez-moi, je viens d'avoir un flash. Parce que là, Paolo Tosha dit, ok, on a un problème de ninja, heureusement je connais un ninja. Mais j'imagine si tu connais pas un ninja, tu dois aller sur LinkedIn et tu vas chercher un profil de ninja en lui demandant, est-ce que vous voulez bien faire partie de mon réseau parce que j'ai un problème, il y a un ninja qui a essayé de tuer mon copain à Hong Kong.
Non mais fut un temps dans les pages jaunes, t'avais quand même une section ninja et tout, enfin faut pas croire que c'était...
Bah là je suis sur le bon coin et là je viens d'en recruter un pour la semaine prochaine pour faire la pelouse.
Mais c'est ça en fait qui est marrant aussi avec ces films, c'est que d'un coup ils vont surfer sur le mythe du ninja et c'est presque sérieux. Mais à côté de ça ils se rattrapent en faisant des bah oui, un des ninjas j'en connais un, attendez mais mon mari est ninja, enfin c'est voilà, c'est ce qui contribue vraiment au côté
De toute façon pour rentrer dans Interpol déjà tu as un examen de ninja, t'as un concours de ninja forcément donc
voilà. Et donc bon bah le film se finit, enfin en fait commence, se finit, il y a des bastons tout le temps, il se finit par, moi je trouve c'est une des meilleures séquences de fin parce que c'est vrai que tous ces films sont construits de la même manière, en gros on commence par une scène d'exposition avec les acteurs américains. Après, on a des bouts du film asiat, après, on a des petits retours, et ça se finit toujours par une espèce de scène dantesque, de baston, où là, c'est assez riche en ninja, alors ça peut durer 3 minutes pour les pires films, comme ça peut durer quasiment 10 minutes, un quart d'heure pour les plus belles pièces. Celle de Clash of the Ninja, elle est plutôt pas mal, donc après un scénario complètement nonsensique, on se retrouve enfin dans un terrain vague, avec des ninjas qui se mettent sur la gueule. Parce que c'est en fait finalement, si on regarde ces films, c'est pour en arriver là. Et là, alors c'est un festival, il y a des ninjas, des coupages de bras, des ninjas en plâtre qui explosent, des mannequins en polystyrène, des ninjas qui se dédoublent, qui deviennent triples, qui se multiplient. Enfin, c'est tout ça, évidemment, avec des effets spéciaux complètement cheap. Et du coup, c'est ce qui fait aussi la magie des bruitages de dessins animés, des bombinettes à fumer. Enfin voilà, moi c'est pour ça que je l'ai choisi, et comme je disais tout à l'heure, il y a aussi un petit truc d'affection, c'est que du coup j'ai rencontré Paolo Tosha, lors d'un voyage aux États-Unis où en famille, où j'avais pris une demi-journée pour le rencontrer, puis l'interviewer, parce qu'on était assez fascinés par ce mec. Et je m'attendais en fait à ce qui débine complètement ces films-là, comme beaucoup d'acteurs ont, ont pu le faire en n'assumant pas. Paulo Toccia, pour faire vite, après il a joué dans Bloodsport et il a eu quand même une espèce de vraie carrière aux États-Unis.
Bah, et c'est d'abord un champion de Muay Thai
oui.
À la base.
Oui, hein. Oui, donc c'est
un vrai artiste martial.
C'est un vrai artiste martial. Il a eu une vraie carrière. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il a une vraie carrière qui sent un peu quand même la loose. C'est-à-dire que quand on lui demande un peu, il dit quoi là, il a tourné à Hollywood, il a tourné avec 8 réalisateurs oscarisés. Techniquement, c'est vrai. Après, quand on rentre dans le détail, il m'expliquait qu'il avait par exemple tourné dans le plan de séquence d'ouverture de Strange Days, qui est mythique. C'est vrai. Sauf que le problème, en fait, c'est qu'il a un bas sur la tête et que personne ne peut le reconnaître. Il a tourné avec Michael Mann, mais en fait c'était dans une pub pour AT&T, et en fait il s'est cassé la jambe sur le tournage. Enfin voilà, c'est quand même, on est un peu dans un esprit où il a un vrai parcours en fait. C'est un vrai mec qui vit à Hollywood et qui a été vraiment acteur. En même temps, ça reste voilà, de la série B. Son grand fait d'armes, effectivement, c'est d'avoir été l'antagoniste de Van Damme dans Bloodsport. Paco, enfin un des méchants quoi.
Il a ouvert une école d'arts martiaux, non?
Ouais, il a ouvert une école d'arts martiaux, il enseigne, il est vraiment fort. Et en fait il avait un point de vue, moi je pensais qu'en lui parlant de ses films il allait me dire bah voilà, en gros je veux plus en entendre parler, c'est de la merde, etc. Et lui en fait il dit mais non, mais ces films je leur dois tout parce que c'est grâce à ces films en fait que je suis venu à Hollywood, et ces films j'en suis fier, et ces films je les adore. Et j'ai trouvé que c'était vachement touchant en fait, parce que quand on parlait tout à l'heure de Richard Harrison qui lui vraiment ne veut plus entendre parler de ça et a pas de mots assez durs pour décrire les réalisateurs et les producteurs de cette firme. Et ben Paulo Toccia, lui, il dit, voilà, moi j'étais jeune, j'avais 20 ans, je me retrouve, on me propose d'être premier rôle, je me retrouve à faire des cascades, je me retrouve sur un plateau, et en fait, c'était un des plus beaux, un des vraiment moments fondateurs de ma vie, et j'ai trouvé ça vachement touchant. Donc voilà, ça c'est le dernier extrait qui est un peu hors sujet, enfin pas hors sujet, mais hors série, on va dire, c'est là, un petit bout d'interview qu'on a pu faire avec lui, où il explique ça justement.
From Godfrey, all the ninja movies, for me... A lot of people like to deny they did them and this and that. For me, it was great. This is a great opportunity for me, you know, as a young guy, you know, in a completely different world. Look, my hair stand up when I think about it. Look at this.
Hein? Je pense que une des différences fondamentales, je pense, entre Paulo Toccia et des mecs plus aigris, comme, enfin aigris en tout cas, comme Richard Harrison, qui eux vraiment renie ce passage, c'est que lui, c'était le début de sa carrière, oui. Alors que Richard Harrison, c'était la fin, quoi.
Et même, ça va même plus loin, parce qu'en fait, il a dit qu'il a carrément arrêté sa carrière après ses films de ninja, quoi. Ça l'a dégoûté définitivement.
Mais c'est vrai que t'as raison, oui, vous avez raison. En fait, c'est même exactement ça. C'est-à-dire que là, on a un mec de 20 ans qui se retrouve à Hong Kong et qui se retrouve premier rôle de film tout pourri, mais en fait, où lui, il vit une sorte de rêve éveillé et on lui fait tourner des films d'action.
Il apprend le métier un peu aussi. Hein.
Il apprend le métier, il apprend à se placer. Parce que faut dire que ces films de ninja, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais ils sont quand même bien chorégraphiés.
C'est oui, pareil, les chorégraphies des bastons qui sont faites par des chorégraphes chinois avec des cascadeurs chinois sont très correctes. C'est toujours les mêmes, mais elles sont d'un niveau technique tout à fait correct.
Donc je pense qu'effectivement, lui, il se retrouve là, et en début de carrière, et ça lui fait un tremplin. Et du coup, il apprécie, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que moi, j'ai une grosse tendresse pour Clash of the Ninja.
Peu de gens sont allés chercher, quand même, l'histoire de Paulo Toccia, un second couteau du cinéma d'action... Enfin, c'est vrai, quoi. Quand même, chapeau. Et ça donne vraiment un côté sympa à ce film. Et puis, putain, ce doublage français, ça rend vraiment incontournable.
Moi, le doubleur français, j'espère qu'il a arrêté de fumer quand même. Parce que sinon, je pense que c'est même pas la peine d'essayer de le retrouver aujourd'hui. Quoi.
Je pense qu'il s'est ruiné la voix, ruiné les cordes vocales.
Une pensée pour Jeanne Moreau qui nous a quittés.
Bon, et ben, merci beaucoup, merci à vous. C'était vraiment marrant de parler de ces films de ninja. En plus, nous, c'est des Madeleine de Proust, quoi. C'est quand même les premiers, ça fait partie des premiers grands trucs qui nous ont fait complètement halluciner quand on les découvrait les uns après les autres en VHS, après sur Internet et tout. Quoi.
C'est vrai que quand je repense à l'époque de la VHS, enfin, je sais pas vous ce que vous en pensez, mais ça fait partie des films les plus fous qu'il y avait à l'époque en VHS. C'est-à-dire que depuis, ouais, on a vu grave, d'autres choses grâce au téléchargement. Je pense évidemment aux films turcs. Ou faudra qu'on consacre une quinzaine de podcasts
à peu près, ouais.
mais là, c'était des films en fait qui étaient quand même distribués. Enfin, on les trouvait nous à l'époque dans plein de vidéoclubs, dans plein de cash converters. Ils étaient facilement trouvables.
Et ils sont sortis au cinéma pour certains en plus. Hein.
Ouais, c'est vrai.
On a eu la chance d'en voir en 35 mm à la Cinémathèque.
Et moi, je me rappelle effectivement ce moment d'émotion à l'époque. J'étais simple visiteur de Nanarland. quand dans le vidéoclub à côté de chez moi, j'ai trouvé Ninja Fury et Ninja Terminator, qui étaient des films que je rêvais de voir.
Je me souviens encore du magasin où j'ai trouvé le tout premier qu'on a chroniqué, puis c'est moi qui ai chroniqué le tout premier, qui était Ninja American Warrior, que j'ai trouvé dans le 33000 de Chambéry.
Spéciale dédicace.
Étagère du haut. Donc, et quand je te l'ai montré la première fois, on s'est même demandé si c'était vraiment un vrai film. Et on s'est posé la question, est-ce que ça rentre dans Nanarland, parce que c'était tellement dingue qu'on avait l'impression que c'était une parodie ou que c'était pas un vrai film.
Faut dire que ça a commencé, je me souviens, parce que là, pour mélanger les deux films, ils avaient fait carrément une fille qui met une perruque face caméra.
C'était une perruque d'asiatique pour faire les scènes asiatiques. Et alors que c'est une blonde, quoi.
C'est génial.
Il y a un moment où elle dit je vais me déguiser pour aller combattre les méchants. Et tu la vois qui met une perruque et qui devient l'actrice de l'autre film.
Ouais, c'est ça. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que ces films ils ont pas disparu avec la VHS. Ils sont ressortis en DVD. Je parlais de notre édition Prestige Ninja. Alors voilà, nous c'était un coffret, on s'est fait plaisir. Mais il y en a eu plein. On les a retrouvés dans plein d'éditions différentes. Ils sont tous. Ils sont inquantifiables, mais il y en a plein qui sont sortis en DVD cheap, en truc bas prix, en import. Mais il y en a plein qu'on a découvert au fil du temps, quoi.
Pas beaucoup en France quand même, quelques-uns, mais surtout.
Il y a Backfilm qui en avait sorti un paquet.
L'exécuteur défilé Empire du Kung Fu, je me souviens. Ouais. Ouais. Mais en fait, le truc, c'est que IFD était encore vivante, entre guillemets, au moment où le DVD est arrivé. Et je pense
donc ils refourguaient tout ça.
Ils ont vraiment refourgué les droits et que c'était pas des bootlegs, quoi, c'était des copies légitimes.
Ils ont même repris tous leurs films de ninja pour faire une série télé. Qui n'est composé que de morceaux des anciens films de ninja, en fait.
Ouais, là, il n'y a pas plus high concept que ça, quoi. C'est-à-dire que t'as des ninjas deux en un, où t'as fait des scènes à la con dans n'importe quel ordre, et tu les reprends toutes, et tu refais le montage pour faire une série télé.
Il faut quand même dire que le mec, le grand responsable de tout ça, donc Godfrey, le réalisateur, aujourd'hui, c'est pas une blague, il est prof de cinéma.
Oui, c'est vrai.
Et il n'est pas manchot avec une caméra. Quoi qu'on en dise, hein, ces scènes d'action, elles sont propres, elles sont lisibles. Et d'ailleurs, on fait bien la différence entre celles qui sont faites par Godfrey et celles qui sont faites par tous les tâcherons des éditions économiques. Quand Godfrey ne pouvait pas faire tous les films, parce qu'il en faisait du genre 25 par an. Et mine de rien, quoi qu'on en dise, en directeur de combat, en directeur de simplement de technique, bah, il touche sa bille, quoi. C'est pas un mauvais, hein.
Pour faire quand même l'avocat de la défense, il faut expliquer que Godfrey a toujours nié avoir été réellement responsable de ça. Il dit, écoutez, moi j'étais qu'un exécutant, les producteurs me faisaient faire ça, j'avais besoin d'un job, fallait que je mange, donc moi je faisais ça, mais c'était pas ma décision et c'était pas moi qui étais responsable, c'était les producteurs.
C'est un peu l'excuse de tous les gens qui ont fait des
nanars. C'est ce que j'allais dire. on l'a entendu souvent ce discours. On pourrait y passer des heures. D'ailleurs, on va y passer des heures parce qu'on va forcément y revenir. Il y a tellement de trucs. On n'a pas du tout abordé les ninjas taïwanais aussi, les ninjas de Robert Tai. Et tout ça, c'est quand même un autre. C'est un pan un peu plus, j'ai envie de dire, artistique, mais un pan quand même assez what the fuck.
Sur Hong Kong aussi, on aurait pu en parler. Enfin, Richard Harrison, on a effleuré son cas, mais en fait, on aurait pu passer 3 heures dessus, quoi. Enfin,
c'est... On a effleuré un autre ninja américain, les films de Michael Dudikoff. Enfin,
donc,
c'est...
on y reviendra plusieurs fois, je pense, avec grand plaisir, parce qu'on a vraiment des trésors. Puis on a aussi des trésors d'anecdotes à raconter, quoi.
Mais je crois que c'est juste de dire qu'en termes de genre, le ninja est celui où le ratio nanar, film normal ou navet est de très loin le plus élevé.
C'est vrai.
Ouais. Il y avait qu'un seul genre jusqu'à cette année qui concurrençait, c'était le film d'Amazon, où il y avait que des navets, et puis depuis le Wonder Woman, ça y est, ils ont réussi à faire un film d'Amazon à peu près correct. Donc maintenant, il faut qu'ils nous fassent un film de super-héros avec un ninja pour sauver un peu le ninja.
Et ils ont fait un film de ninja quand même produit par les Wachowski.
Oui, Ninja Assassin, qui est plutôt OK.
Qui pour le coup est une vraie relecture, je trouve, à l'américaine, mais du mythe, et qui est vraiment efficace. Quand même.
Ouais. Bon, merci beaucoup, merci à vous. On va laisser nos auditeurs reprendre une activité normale hors ninja. Est-ce que, avant de conclure, il y a quelque chose que vous voulez recommander? On a déjà teasé pas mal d'autres trucs sur les ninjas, mais est-ce que vous voulez parler de quelque chose dans l'univers ninja avant de clore temporairement le sujet?
Alors moi ça va pas être tout à fait dans l'univers ninja, même si je pense qu'ils vont finir par l'aborder un jour. Je voudrais recommander un podcast, un autre podcast qui s'appelle VHS et Canapé, qui est tenu par des fans de films des années 80. Et donc comme eux, ils ont beaucoup parlé de la Canon. Ils ont fait une émission spéciale sur la Canon, une émission spéciale sur le film Commando. Ils viennent de faire une émission sur Romero. Ce sont des vrais passionnés. Ils ont sorti un petit spin-off qui s'appelle C'est à louer près de chez vous, où ils s'imaginent dans un vidéoclub très années 80 avec des clients qui viennent recommander tel ou tel film. Et ils sont vraiment un peu dans notre esprit, bonne ambiance, vraiment des amoureux des films 80. Et je vous conseille quand même de jeter une oreille sur ce qu'ils font. VHS et Canapé, vous trouverez ça facilement sur internet. Ils font du bon boulot, ils ont fait une émission spéciale nanar de 2 heures où ils ont vraiment donné tout leur amour sur le genre. C'est du tout bon.
Si bah, je peux super, faire un merci. Petit placement produit, c'est ouais. Juste rappeler pour la 6e fois qu'il y a un coffret Prestige Ninja qu'on a eu le plaisir ouais. De faire en collaboration avec Artus Film, où dessus il y a Clash of the Ninja. Je tiens à préciser que c'est pas du tout pour ça que j'en ai parlé pendant un quart d'heure. Hein. C'était pas... Mais voilà, c'est vrai qu'on s'était un peu fait plaisir sur ce coffret-là. Artus nous avait suivis et je pense que c'est le seul coffret Prestige consacré aux ninjas de l'univers en fait.
Ouais, et puis aussi, n'oublions pas l'épisode de Nanaroscope.
Oui, on a fait un épisode de Nanaroscope, oui. Effectivement, où on a pu parler avec Sam Firstenberg, le réalisateur du film dont parlait Rico, qui revient un petit peu sur cette création du mythe et qui... Enfin, du mythe. Sur cette création du mythe qui part à Hong Kong, qui revient, enfin, qui fait des allers-retours comme ça, et qui était éclaté de rire, en fait, quand on lui a dit qu'il y a des gens qui s'étaient inspirés de ses propres films pour faire des mauvais films de ninja. Alors, il a dit mais mes films étaient déjà mauvais. Ça a beaucoup fait rire en fait. Et voilà, donc il a interviewé dans Nanaroscope sur Arte Creative.
Bon bah super, merci. Julien, un petit truc
Ouais, un petit troco. Vous avez une chaîne YouTube qui s'appelle Godfreyo ou Godfreyo Movies, dans laquelle vous avez une filmographie quasi complète de Godfreyo avec que des films entiers. Et donc si vous voulez du 2 en 1 ninja, si vous voulez vous initier à ça, c'est pas un mauvais endroit où commencer, alors la limite étant que c'est que des versions anglaises.
Ouais, c'est dommage. C'est vrai que les versions françaises, ça apporte quand même beaucoup. Hein.
Les doublages anglais sont parfois pires que les doublages
c'est
français.
C'est pas faux.
Parce
qu'ils n'ont
même pas la culture du doublage aux États-Unis, donc c'est fait par des gens qui ne savent même pas faire ça, quoi, parce qu'en France, on a quand même des très bons doubleurs.
Ouais. On a pu l'entendre.
Mais on a des très bons doubleurs, mais visiblement ils n'étaient pas embauchés pour doubler les films dont on a parlé précédemment.
Travailler sur d'autres trucs.
Manque de bol. Bon bah merci les amis, merci beaucoup, chers auditeurs. Mangez ninja, vivez ninja, soyez des ninjas.
Bourbinette à fumer, on disparaît.
Ouais, on va disparaître en fumée en écoutant un peu de musique.
Et n'oubliez pas que si vous voyez un ninja dans la rue, c'est que c'est pas un vrai ninja puisque vous l'avez vu.
Donc on se quitte en musique sur la BO de Ninja 3, bien it is comme il faut, que je trouve assez tripante. Ça s'appelle Love Bites. Allez, portez-vous bien et à bientôt.